Aquelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un succès et un échec pour la France. D'abord la mort d'un des plus puissants terroristes au Sahel. Le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, abattu par la force Barkhane. L'annonce est tombée dans la nuit. L'échec, c'est ce bras d'honneur de l'Australie qui n'achètera pas les 12 sous-marins commandés à la France en 2016 et se tourne désormais vers les États-Unis. Explication dans un instant. 100 euros pour près de 6 millions de ménages modestes. Coup de pouce du gouvernement face à la hausse des prix de l'énergie. Le pouvoir d'achat, sujet majeur de la rentrée, sujet de campagne pour la présidentielle. Votre invité, Nicolas, est justement une ancienne candidate à la fonction suprême. Elle sort un livre aujourd'hui, c'est un recueil de nouvelles.
Oui, on va parler littérature et politique avec l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, au micro d'Inter dans une bonne vingtaine de minutes. Elle publie donc ses morceaux de vie comme carreau cassé chez Robert Laffont. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec elle.
Dans ce journal, on parlera aussi de la douloureuse audience attendue aujourd'hui au procès des attaques du 13 novembre. La cour va projeter des images et du son des carnages de Vincent Bolloré qui veut croquer Lagardère. Il va lancer une OPA pour récupérer Hachette, Europe 1 et Paris Match entre autres. Et d'une exposition façon Madeleine de Proust, Goldorak en majesté à la Maison de la Culture du Japon en ce moment à Paris.
France Inter.
L'opération Barkhane n'en a plus que pour quelques mois au Sahel, mais avant de partir en début d'année prochaine, les militaires français ont réussi un gros coup annoncé dans la nuit par Emmanuel Macron sur Twitter, la mort du chef du groupe État islamique au Grand Sahara, tué par une frappe française aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Bonjour Omar Ouaman.
Bonjour Florence.
Abou Walid al-Sahraoui avait été désigné comme ennemi prioritaire au Sahel.
Oui, Abou Walid al-Sahraoui était un homme traqué par les soldats de la force Barkhane. Effectivement, une cible prioritaire de l'armée française, car c'est lui qui avait ordonné l'assassinat au Niger en août 2020 de 6 travailleurs humanitaires français et de leurs guides et chauffeurs locaux. Il semait littéralement la terreur au Sahel depuis des années, notamment dans cette région des trois frontières à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Abou Walid al-Sahraoui, 48 ans, était originaire de Laayoune, au Sahara occidental. Il a été membre du Polisario, exilé en Algérie, où il s'est radicalisé avant de rejoindre le nord du Mali, où il annonce en 2015 la création de l'État islamique au Grand Sahara. Il devient ainsi le premier chef djihadiste du Sahel à faire allégeance à Daesh. Sa mort date en fait du mois d'août dernier dans la région de Ménaka, une mort annoncée cette nuit par Emmanuel Macron dans un tweet où il rend hommage aux soldats français tombés au Sahel. Emmanuel Macron qui salue également un succès majeur dans la lutte contre les groupes terroristes dans la région.
Omar Ouaman en direct de Conakry en Guinée, mais cette nuit la France n'a pas célébré que de bonnes nouvelles. En voici une très mauvaise pour l'industrie militaire, un camouflet infligé par l'Australie qui devait nous acheter 12 sous-marins. On avait parlé du contrat du siècle au moment de la commande en 2016, un contrat à 56 milliards d'euros. Mais voilà, Sydney a changé d'avis, passe commande aux États-Unis pour des sous-marins à propulsion nucléaire. Ceux de la France auraient marché au diesel et à l'électricité. C'est la raison invoquée par Scott Morrison, le Premier ministre australien.
Les sous-marins nucléaires ont plein d'avantages. Plus puissants, plus endurants, plus rapides, plus furtifs et ils ont une plus grande capacité d'emport. La France reste un partenaire très important. J'espère que cette relation se poursuivra au-delà de ce qui est indubitablement une décision difficile et décevante pour la France.
Une décision difficile pour la France, c'est certain. Bonjour Franck Cognard.
Bonjour.
Mais l'argument nucléaire n'est pas le seul à prendre en compte pour comprendre ce revirement qui est surtout la conséquence d'une nouvelle alliance entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Mais avant tout, c'est une conséquence de la volonté des États-Unis de contrer la Chine dans cette région indo-pacifique où la Chine étend son influence politique, économique, militaire un peu plus tous les jours. Donc les sous-marins que les USA vont fournir à l'Australie seront une sorte d'extension wallaby de la marine américaine, si on fait un simple. Et autour des navires eux-mêmes, c'est effectivement un pacte plus large qu'a proposé ou qu'a imposé Joe Biden. C'est une alliance d'échange de technologies dans les domaines du nucléaire ou de l'intelligence artificielle, par exemple. Alors la France, elle peut, comme elle l'a fait cette nuit, regretter d'avoir été écarté du marché par un allié. Mais la coopération entre Canberra et Washington est ancienne et solide, faut pas être naïf non plus. USA et Australie travaillent déjà ensemble au quotidien depuis des années, avec trois autres pays au sein de ce qu'on appelle les Five Eyes. C'est un club d'échange entre services de renseignement, par exemple.
Et quelles conséquences pour la France, Franck? Est-ce que les sous-marins étaient déjà en phase de construction?
Non, les sous-marins n'étaient pas encore en construction. D'ailleurs, voilà plus d'un an et demi, depuis janvier 2020, que l'Australie pointait régulièrement les 9 mois de retard déjà accumulés et les milliards de dollars de dépassement de budget causés par les Français. Emmanuel Macron n'avait pas su rassurer le chef du gouvernement australien qui était à Paris en juin pour discuter justement des modalités du contrat. Pour l'industriel, pour Naval Group, ah oui, c'est une perte, mais qui est à nuancer. Les sous-marins auraient de toute façon dû être assemblés en Australie. La sous-traitance était locale aussi. Ce contrat, c'était 500 emplois à Cherbourg et près de 3000 sur place là-bas. Après, en termes d'image, effectivement, ça fait du dégât pour Naval Group. Et puis pour la France, eh bien, c'est un coup dur en termes de rayonnement stratégique, puisque Paris voulait et veut toujours peser lourd dans le Pacifique. Faudra trouver autre chose maintenant.
Sans compter les 56 milliards d'euros que la France et que l'industriel ne touchera pas. Merci Franck Cognard. Le coup de Trafalgar de l'Australie, pressé par la Chine, pressé par les États-Unis et leur volonté d'être plus puissant face à la Chine, ce sera le sujet de la chronique de Pierre Aski juste après ce journal.
Il est 8h06, Florence, 100 euros de plus pour 6 millions de ménages.
Une rallonge du chèque énergie pour aider les plus modestes à payer leurs factures de gaz, de fuel et d'électricité. Les tarifs ont beaucoup augmenté ces derniers mois, sans compter le prix de l'essence et du gasoil à la pompe et l'inflation inédite depuis 10 ans. Le pouvoir d'achat, Yael Gauz, c'est le thème qui est en train de s'imposer en cette rentrée de campagne électorale.
Chez les ministres, on sentait bien que le sujet allait monter. Le SIG, le service d'information du gouvernement, le confirme dans ses petites notes envoyées tous les jours à Matignon. Depuis lundi, la question du pouvoir d'achat s'impose dans le débat public. Vive l'augmentation des salaires de Jean-Luc Mélenchon et son SMIC à 1400 euros à Valérie Pécresse et son salaire net augmenté de 10%, en passant par Anne Hidalgo qui veut doubler celui des enseignants, avec le danger pour l'exécutif d'apparaître beaucoup trop timide et économe. Faux, en 4 ans, on a déjà fait beaucoup, martèle le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
Nous avons augmenté la prime d'activité, défiscalisé les heures supplémentaires, baissé l'impôt sur le revenu, 5 milliards d'euros pour 17 millions de ménages, supprimé la taxe d'habitation, c'est 360 euros de gains en moyenne.
Mais communiquer sur un bilan ne suffira pas, car souvent, soupire un ministre, les chiffres se heurtent aux ressentis. Depuis la rentrée, Emmanuel Macron distribue les chèques pour Marseille, pour la police, pour les pêcheurs. Effet pervers, cela va multiplier les revendications catégorielles, s'inquiète un cadre de la majorité, qui redoute la prochaine discussion budgétaire à l'Assemblée. L'avertissement de la Cour des comptes est pourtant clair.
La sortie de crise, pour être réussie,
Pierre Moscovici, son président hier à l'Assemblée,
doit s'accompagner d'une stratégie de redressement des finances publiques.
Discours difficile à porter en campagne, le quoi qu'il en coûte a laissé et laissera des traces.
Et pas de coup de pouce au SMIC. En revanche, au 1er octobre, il augmentera de 2,1%, soit 35 euros bruts, mais c'est une hausse mécanique qui s'appuie sur l'inflation. Là, on parle de centaines de millions d'euros. Le prix du groupe Lagardère, que Vincent Bolloré veut récupérer tout entier, déjà actionnaire à 45%, il va lancer avec son groupe Vivendi une OPA, offre publique d'achat pour racheter le reste, notamment à Bernard Arnault et au Qatar. Pour ce faire, l'opération devra obtenir l'autorisation du CSA et de l'autorité de la concurrence européenne. Et si elle aboutit, Laurent Kramer, c'est un empire de l'édition et des médias que va constituer Vivendi.
Avec cette opération, Vincent Bolloré entend tout d'abord créer un géant mondial de l'édition, englobant Hachette et Editis et des milliers de points de vente avec les magasins relais. À la tête d'un nouvel empire de l'édition et des médias, Vincent Bolloré avait pourtant promis à Arnaud Lagardère en personne de ne jamais lancer d'offensive boursière contre son groupe. Désormais dos au mur, avec seulement 7% du capital, Arnaud Lagardère n'est plus maître à bord du groupe familial. Vincent Bolloré devra néanmoins limiter l'emprise du nouvel ensemble regroupant à côté de l'édition Havas, Canal+, CNews, Prisma Media avec Voici et Gala et désormais Paris Match, le JDD et Europe 1 pour obtenir l'aval de la Commission européenne et du CSA. Vincent Bolloré pourrait donc être tenu de se délester d'une ou deux pépites du groupe Lagardère aux premières loges. Un autre milliardaire attend sa monnaie d'échange. Le PDG d'LVMH, Bernard Arnault, est lui aussi propriétaire de 10% du groupe Lagardère.
Laurent Kramer. La der des der pour Angela Merkel, c'est sans doute sa dernière visite officielle en France. Aujourd'hui, après 16 ans au pouvoir à Berlin et avant les élections législatives dans 10 jours en Allemagne, elle va dîner avec Emmanuel Macron à l'Elysée.
Il est 8h10 et c'est une journée éprouvante, Florence, qui s'annonce aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Une journée où les enquêteurs défileront à la barre pour faire le récit des attaques et de leurs constatations ce soir-là. Images et sons à l'appui pour illustrer leurs propos. Mais le président de la cour d'assises spéciale a pris toutes ses précautions, Charlotte Piret, pour ne pas faire de ce moment une épouvante.
Le souvenir du choc devant la diffusion des images de la salle de rédaction de Charlie Hebdo lors du procès des attentats de janvier 2015 est encore frais. Un choc qui avait à l'époque été d'autant plus rude qu'il était doublé d'un effet de surprise. Alors pas question pour le président de ce procès des attentats du 13 novembre de se risquer une telle maladresse. Car le moment est venu aujourd'hui, des vidéos de constatation au Stade de France, précise le président, sur les terrasses du Carillon, du Petit Cambodge et de la Bonne Bière. Je préfère prévenir pour les parties civiles, y compris celles qui suivent l'audience à distance via la web radio qu'il aurait dédiée, car demain, poursuit encore le président, on diffusera les 30 premières secondes de l'enregistrement du Bataclan, ce dictaphone d'un spectateur tombé sur une marche du balcon de la salle de concert et qui a capté les 2h30 de l'attaque. Seul le tout début sera donc diffusé. On n'entend que la musique et les premiers tirs, indique encore le président. De même, sur les images des terrasses visionnées aujourd'hui, ce seront des plans larges. De loin, on ne pourra pas reconnaître de victimes sur les photos, poursuit le président. Très attentif, on l'a compris, à ménager des parties civiles encore très traumatisées pour certaines.
Charlotte Piret, 9 noyades en une seule journée hier en Méditerranée, 9 baigneurs pris au piège de la houle dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et l'Aude, victimes de courants qui les ont tirés vers le large et vers le fond. Elles avaient entre 64 et 80 ans. Et voilà une fronde qui ne s'éteint pas, celle des habitants du 20e arrondissement de Paris. Ils ont obtenu l'abandon du projet de salle de shoot pour les toxicomanes que la mairie prévoyait d'installer près d'une école. Le gouvernement n'a pas voulu la financer, à l'inverse des trois autres prévues dans les 10e et 19e arrondissements. Mais la mairie ne renonce pas et promet de trouver un autre espace. Ce qui a mis 300 riverains très en colère hier soir, réunis à l'intérieur et à l'extérieur d'un gymnase où le maire du 20e et le premier adjoint d'Anne Hidalgo ont tenté d'expliquer leur projet. Reportage signé Thibault Lefebvre.
Il y a d'un côté de la colère avec des invectives lancées à la hussarde pendant les discours.
Et les agressions, c'est de la démagogie.
Et de l'autre, de l'incompréhension qui frôle par instant la condescendance.
Ça fait aussi partie de la noblesse de notre métier de faire des choses auxquelles on croit, y compris en ayant l'honneur d'affronter une foule comme vous, pas tout à fait constructive.
Les deux parties étaient hier soir irréconciliables.
Est-ce que vous réfléchissez un petit peu ?
Car la majorité des riverains, comme Teresa, estiment avoir été dupés.
C'est des petits rigolos, là, ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont commencé par nous culpabiliser. Hein, on n'est pas solidaires, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, ce sont des structures qui seront hyper surveillées. Gna, 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 gna. Alors ça suffit.
Le projet de la mairie de Paris consiste à installer un réseau de petits lieux d'accueil dans plusieurs arrondissements. Et malgré le rejet par l'État de sa proposition, le maire du 20e, Éric Pliez, compte bien persévérer.
Nous restons prêts à prendre notre part pour installer un lieu de repos. Parce que ce qui compte, c'est de sortir ces gens de leur addiction. Encore faut-il trouver des sites.
Protocole sanitaire oblige, les riverains étaient près de 200 hier soir contraints de rester dehors. Ils manifesteront samedi devant la mairie du 20e pour la 3e semaine consécutive.
Thibault Lefebvre, il contemple la Terre et les étoiles sous un dôme de verre. 4 touristes spatiaux partis de Cap Canaveral cette nuit aux États-Unis. Ils tournent en orbite alors qu'il est à bord de leur capsule. Leur voyage en apesanteur va durer 3 jours et c'est un nouveau succès pour la société SpaceX d'Elon Musk. Pas brillant, le PSG hier soir, malgré ses étoiles Neymar, Mbappé, Messi, alignés pour la première fois sur le terrain de Bruges en Belgique. Résultat très décevant, un match nul 1-1 avec peu d'occasions pour les Parisiens pour cette première journée de Ligue des Champions. Seul Français sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine Time. Cette année, c'est Omar Sy que la série Lupin a fait connaître dans le monde entier. Enfin, si vous avez été biberonné à Récréa 2 ou au Club Dorothée, ça n'est pas Lupin. Ce reportage est fait pour vous. C'est une exposition Goldorak qui vient d'ouvrir à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Elle célèbre les 45 ans du héros de dessin animé japonais devenu une icône de la pop. Les robot. Et le robot et ses pilotes fascinent toujours autant, si bien qu'Ivan Jablonka en a fait l'objet d'un de ses chapitres, Un garçon comme vous et moi, édité au Seuil. L'écrivain et historien en fait un marqueur de son enfance et Béatrice Duguay a visité l'exposition avec lui.
C'est une expo qui alimente évidemment la nostalgie des quadras et des quinquas, admet d'emblée Ivan Jablonka. Et Franck avec lui, Franck, visiteur avec sa fille.
La nostalgie de l'enfance, vous savez, Brassens disait, faut toujours garder une bulle. Maman, je garde le cockpit dans la tête parce que c'est des après-midi entières. J'ai encore le Goldorak à la maison, plein d'émotions.
Il a aussi donné naissance à un certain nombre de néologismes qui sont connus
Ivan Jablonka.
De ma génération.
Cornofulgure, Astéroache, Planitron, Pulvonium.
Plus gros point. Lesquels mots appartenaient au langage courant de la cour de récré.
Goldorak, ça n'est pas qu'un parfum d'enfance non plus, plaide l'écrivain historien. Ses valeurs sont belles d'ailleurs, dit Alexandre, collectionneur venu d'Annecy dès le premier jour.
Actarus est très humaniste, très valeureux, très courageux.
À l'heure du goûter, il proposait aux garçons et aux filles une sorte de stage viril, avec des armes surpuissantes, des biceps, des pectoraux, des bolides, des robots, des chevaux. Mais en même temps, de ce dessin animé émanait une intense vulnérabilité. Parce que Actarus, le pilote de Goldorak, est orphelin et sa planète a été anéantie.
Il passe son temps à sauver la Terre aussi. Une conscience écologiste avant l'heure, rien de moins pour Ivan Jablonka.
Voilà pour cette exposition Goldorak jusqu'au 30 octobre à la Maison du Japon à Paris. Je n'ai qu'une chose à dire, Nicolas, fulgure au point.
Oui. Final. Voilà. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Marie-Pierre, pas mal de brume matinale.
Oui, Nicolas, près des côtes de la Manche, les brouillards sont aussi nombreux dans le centre, jusque dans le Cantal, vers Aurillac, à Millau et de Saint-Étienne à Grenoble, mais aussi en Lozère. Puis ce matin, ça reste orageux sur les Alpes du Sud, à la Côte d'Azur, à la Corse, alors que ça s'améliore sur le golfe du Lion avec le retour des éclaircies. Ça peut tonner encore sur le Pays Basque et les Landes à la Bourgogne et au nord de la Loire. Après la dissipation de ces brouillards, les nuages vont se morceler, le soleil sera plus généreux. Il fait encore 12 ce matin, 18 à Paris et Biscarrosse, 17 à Lyon, mais seulement 8 dans le nord à Trois-Villes. Contraste avec les 25 relevés au Cap Corse.
Et retour des orages cet après-midi.
Oui, cette activité orageuse va reprendre au sud d'une ligne qui relierait, on va dire, les Landes à la Bourgogne, mais rien à voir avec les jours précédents. Ces orages ou ces averses orageuses seront plus éparpillées. Et puis, autour de la Méditerranée, le ciel vraiment sera plus clément et ce sera plus lumineux, excepté encore en Corse, où ça va gronder. C'est à Ajaccio d'ailleurs qui va faire le plus lourd, avec 29 degrés, contraste avec les 19 seulement à Saint-Malo et Gérardmer. On se rapproche des normales de saison, 20 à Brest, 21 à Strasbourg, 22 à Paris, 23 à Biarritz, comptez 24 à Lyon et Bordeaux, 25 à Saint-Tropez, 26 à Valence et Montpellier, et 27 à Argelès-sur-Mer.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. France Inter, 8h10.